Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Nous allons parler de l'allègement. À quand l'allègement des mesures anti-Covid, vous savez, pour lutter contre la propagation de Covid-19, le gouvernement congolais avait pris plusieurs mesures, dont le couvre-feu. Avant, il était ce couvre-feu démarré à 22h jusqu'à 4h, et après il a été repoussé de 23h à 5h. Avec la baisse des cas de contamination, le gouvernement compte lever la mesure, cette mesure de couvre-feu sanitaire prise il y a plus d'une année pour le ministre de la Santé. Toutes les conditions sont réunies pour alléger les mesures de lutte contre la pandémie, et des propositions ont été faites, et il revient à la task force présidentielle de décider par rapport à cela. Bien, nous allons en parler dans quelques instants avec docteur Jean-Marie Kayembe, membre de l'équipe des ripostes contre Covid-19. Et si tout marche bien, on aura également le ministre de la Santé pour en savoir un peu plus. Nous avons en ligne docteur Jean-Marie Kayembe. Bonjour docteur.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre de l'équipe des ripostes contre Covid-19. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'allègement des mesures anti-Covid parce qu'il y a eu baisse sensible des cas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Tout ce que je peux en dire, c'est que la situation telle que présentée par celui qui est en charge de la santé de la population congolaise, j'ai cité le ministre de la Santé, a confirmé ce qu'observent les acteurs de terrain. Il y a effectivement une diminution significative du nombre de cas de Covid actuellement. On n'a jamais atteint des chiffres pareils à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une mesure tout à fait réelle qui ne relève pas d'une fantasmagorie ni d'un rêve, et la réalité relevant des enquêtes ou de contrôles épidémiologiques dans le pays.
Alors, et c'est quoi la procédure maintenant pour l'allègement, la procédure à suivre pour arriver à cet allègement?
Voilà, la gestion de Covid-19 a dans notre pays été organisée et est toujours organisée autour d'un comité multisectoriel réunissant tous les ministères qui sont impliqués dans la gestion d'une situation pareille, hein, une situation d'urgence, une pandémie. Ministère de la Santé, de la Défense, des Finances, en guise d'exemple. Tout cela sous la houlette du président de la République, qui a la responsabilité et qui est accompagné de manière technique par directement la task force présidentielle. Alors, en dessous de ce comité multisectoriel qui réunit plusieurs ministères, le président de la République a confié au professeur Jean-Jacques Muyembe, qui dirige le secrétariat technique dont nous faisons partie, le domaine technique de la gestion de cette pandémie. Nous sommes donc des techniciens qui apportons des conseils à l'exécutif, au comité multisectoriel, qui lui, au niveau dirigé par le Premier ministre, a la responsabilité de prendre des décisions en tenant compte, bien sûr, des différents conseils qui émanent notamment du secrétariat technique.
Voilà. Donc, disons, le ministre peut faire des propositions au secrétariat ou au comité. Comment ça tourne, professeur?
Le secrétariat technique, organe technique, fait des propositions au comité multisectoriel que dirige le Premier ministre. Et ce comité multisectoriel, son secrétaire, c'est le ministre de la Santé. Donc voilà, le secrétariat technique apporte les données collectées à partir de la base des provinces, de Kinshasa, des différents centres de traitement, etc. Les ramène au niveau du comité multisectoriel, dans lequel siège, il assure le secrétariat, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Et arrivé à ce niveau-là, la décision revient à l'exécutif, que dirige le Premier ministre, mais bien sûr en accord avec le président de la République.
Et on parle aussi de la task force présidentielle. Est-ce que c'est le même comité ou c'est une autre structure?
Oui,
aussi
c'était ça justement la force de l'organisation chez nous. La task force présidentielle est un groupe conseil pour le président de la République. La task force répond directement du président de la République, lui réfère toutes les informations qu'il peut avoir, apporte éventuellement des informations qui permettront à ce dernier de prendre une décision. Mais attention, nous avons fonctionné et nous fonctionnons, c'est ça la force, comme un seul homme uni pour une cause commune. Donc il n'y a pas, et chacun sait très bien qu'est-ce qu'il a comme responsabilité au niveau de la gestion de cette pandémie. Disons que ça a été aussi, nous devons le reconnaître, un des points forts de la gestion de la pandémie dans notre pays, qui a permis assez rapidement, je touche du bois, d'obtenir les résultats tels que nous les avons à l'heure actuelle. Je ne dis pas exclusivement, mais ça a été un maillon fort, important de la chaîne de la gestion de la pandémie dans notre pays.
Alors, d'après le ministre de la Santé, aujourd'hui, le couvre-feu, on peut dire qu'il n'est plus... Le couvre-feu sanitaire n'a plus de raison d'être. Donc, on peut déjà procéder à la levée de cette mesure sanitaire.
Mieux que le ministre, je ne pourrais certainement pas prétendre le dire. Mais une analyse simple des faits, tels qu'on les voit à l'heure actuelle, justifie éventuellement... Nous, secrétariat technique, nous limitons à notre rôle d'apporter des orientations, des informations aux décideurs qui, eux, ont la lourde responsabilité de les couler à ce moment-là en décision, qui peuvent être surveillées, applicables, imposables à tous. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire de penser qu'à l'heure actuelle, lorsqu'on voit ce qu'on a comme nombre de cas, sans devoir inviter à un relâchement irresponsable des mesures, il y a moyen d'en alléger certaines. Nous devons reconnaître que la gestion de Covid, non seulement est multisectorielle, mais elle implique la participation de tous les secteurs, économie, anthropologie, médicale, etc. Et la restriction des libertés individuelles cause à travers le monde, on l'a vu, trop de réactions et en sens divers. Nous avons le conflit entre les vaccinaux acceptants, les vaccinaux sceptiques, c'est déjà un exemple, etc. Toute cette gestion peut avoir des retentissements sur la psychologie de l'individu, sur le comportement individuel et de la communauté. Il est important d'être prudent, responsable et de gérer réellement de manière transversale.
Bien, on va accueillir M. Malunga. Depuis Kinshasa. Bonjour Malunga.
Oui, bonjour aujourd'hui. Je suis déjà chez moi ici à Bandundouville.
Vous êtes déjà à Bandundouville. Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
Bon, par rapport au sujet du jour, nous sommes toujours dans les regrets de cette pandémie, puisque nous savons déjà que ça sera toujours ainsi pour un dérangement, je dis. Puisque cette fois, il y a une nouvelle saison. Cette grippe vient, qui est confondue de la pandémie de Covid. Et ça gêne la circulation de la population. Je veux vous dire, lorsque j'étais là à Kinshasa, c'est plusieurs qui portent seulement, qui possèdent le masque, mais il ne porte pas cela. Mais si vous ne portez pas cela, mais vous avez ça, vous avez un problème avec la police. Par exemple, moi-même, dans les grands marchés, j'avais le cache-nez dans ma poche, parce que je suis facilitateur, je suis quelqu'un de l'environnement.
D'accord, vous avez votre cache-nez en poche, vous ne l'avez pas porté, et vous avez eu des soucis avec la police. Alors, quelle est la question que vous adressiez à l'invité par rapport à l'allègement des mesures anti-Covid?
La question n'est pas encore là, je dis, s'il vous plaît.
On doit aller vite, passer directement à la question, M. Malunga.
Oui, je pose ceci. Comment est-ce qu'on sera en paix avec cette maladie? Parce que vous voyez, avec la présence de Covid, nous sommes en sécurité sociale, s'il vous plaît. Parce qu'il y a ceux qui s'enrichissent derrière cette maladie, et les autres là, qui ne veulent pas à ce qu'on s'habitue avec ça.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour être en paix avec cette maladie? Parce qu'il y a certains qui s'enrichissent derrière cela. Professeur Kayembe.
Quant à dire qu'il y en a qui s'enrichissent derrière cette maladie, je laisse à l'intervenant toute la responsabilité de se dire. Je n'ai aucune étude dans le genre, je n'ai aucune enquête qui puisse me permettre de l'aborder ainsi. Mais ce que nous devons dire, nous sommes des scientifiques, c'est que depuis toujours, la plupart des écoles qui s'en occupent disent « nous devrons apprendre à vivre avec cette maladie » qui va certainement passer de l'état de pandémie, comme nous avons aujourd'hui ce problème à travers le monde, à l'état d'endémie. Certaines maladies endémiques se répètent de manière cyclique par moment dans un pays. Nous avons aujourd'hui l'exemple de la grippe. Vous vous souvenez de celle des années 1948 qui a décimé une bonne partie du globe terrestre. Aujourd'hui, la grippe est saisonnière, elle vient par moments. Nous devrions nous attendre éventuellement à vivre de cette manière-là. Sommes-nous totalement sortis de l'auberge? Il ne faut pas non plus du triomphalisme béat qui n'est assis sur aucune certitude. Cette maladie nous a désarmés tous. Cette maladie ne nous a pas encore livré tous ses secrets, notamment en termes d'immunité, la durée de cette immunité, etc. Voilà pourquoi tout le monde insiste pour dire pas de relâchement triomphaliste et très rapide de l'observance des mesures barrières, qui sont notamment celles de la distanciation, qui sont celles du port de masque, surtout lorsqu'on vit dans un endroit fermé, dans lequel on est en surnombre. Il faut éviter. Mais la chose la plus importante, je pense que je fais partie de ceux qui la prônent, c'est l'approche de la vaccination pour tous. Plus la population est vaccinée dans toutes les maladies infectieuses, plus qu'on a la possibilité de penser atteindre l'immunité. Et lorsque l'immunité est la plus large possible, moins de gens peuvent, dans un laps de temps donné, quelle que soit la durée de celle-ci, présenter la maladie et constituer un risque de propagation de cette dernière. Cette maladie nous en apprend beaucoup. Vous avez entendu parler il y a quelque temps de variant Delta après Omicron. On commence tout doucement dans certains pays européens à parler d'une sous-variante de cet Omicron. Nous devons apprendre à vivre avec et développer des mesures d'hygiène, de protection individuelle qui ont une répercussion absolue sur la protection de la cité. Mais lorsqu'on peut se libérer et n'est pas asphyxié, provoquer un collapsus d'autres activités comme le commerce, le petit commerce, le grand, etc. Il faut des solutions plurielles à un problème qui nécessite une gestion collégiale.
Bien. À quand l'allègement des mesures anti-Covid? Alors, professeur, ça peut prendre combien de temps pour qu'on annonce finalement que le couvre-feu est élevé sur toute l'étendue de la République?
Comme je vous disais, que chacun fasse son job, les vaches seront bien gardées. Vous posez la question au pauvre professeur que je suis, n'ayant aucun pouvoir de décision. Le ministre de la Santé en parle. Je vous ai parlé du comité multisectoriel. Je suis sûr et certain qu'à l'écoute de la statistique telle que présentée au quotidien, le Premier ministre et le gouvernement, bien sûr en intelligence avec le président de la République, prendront certainement des décisions les plus salutaires possibles, en s'asseyant bien sûr, en écoutant les données scientifiques qui viennent de la base. À mon humble avis, c'est cela, la gestion responsable, et c'est de cette manière qu'elle a fonctionné jusqu'ici. Maintenant, on sait bien comment certains consortiums commerciaux, internationaux, etc., profitent parfois des situations de ce genre, il faut se le dire, pour s'en mettre plein les poches. Écoutez, il y a un problème de conscience tout de même face à des situations comme celle-là, en pensant tout de même à la personne humaine, à son être, à ce qu'elle est, ce qu'elle peut devenir. Les problèmes, les questions de santé doivent cesser d'être uniquement des questions de business, surtout les questions de santé publique.
Professeur Kayembe, parlons par exemple de l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test COVID-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans le pays d'origine. Est-ce que ça peut rester ou on peut également lever cette mesure-là?
Oui, au fur et à mesure qu'évolue la mesure, la couverture vaccinale, par exemple, il y a déjà des pays qui aujourd'hui ont adopté la présentation d'une vaccination, un pass vaccinal, comme pour dire, plus besoin forcément d'avoir cette contrainte de test Covid 3 jours avant d'y aller. Nous n'en sommes pas encore là dans notre pays. Vous savez, la couverture vaccinale est encore très faible. Mais si la statistique au fil de temps et l'épidémiologie nous démontre que l'on a une stabilisation importante, sachez bien que même l'organisation de ces tests, on a vu comment ils étaient par certains acceptés, par d'autres c'était une occasion de pugilat, etc. à l'aéroport. Je pense honnêtement que de manière responsable, secrétariat technique, task force, le comité multisectoriel, tous réfléchissons sur la manière la meilleure pour alléger toutes ces contraintes qui, au-delà de contraintes, ont également un coût sur la société qui n'est pas négligeable. Donc c'est envisageable, mais cela dépendra de l'évolution, notamment de l'épidémiologie de la maladie, mais aussi de celle de la couverture vaccinale.
Bien, on va accueillir Boumedien de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, bonjour, Jody.
Quelle est votre question par rapport à l'allègement des mesures anti-Covid?
Non, moi, je n'ai pas de question, j'ai des observations tout simplement. Je viens de suivre le premier intervenant, Malonga, qui s'est inquiété qu'il avait des soucis avec les agents de la sécurité. Mais je ne sais pas si nous, les Congolais, nous sommes conscients de ce que nous faisons. On nous a demandé de porter les masques dans un lieu public. Lui va dans un marché, il a son masque, mais il ne le porte pas. Mais il ne le porte pas. À qui la faute? Soyons quand même conscients de ce que nous, les comportements que nous affichons. À la deuxième question que vous nous posez, moi, je ne vois pas si le professeur qui est notre invité a une décision ou le docteur Muyemi.
Même le Boumedien, veuillez vous éloigner de votre radio. On entend le retour de la radio.
Oui, je disais, je ne vois pas, pour la question posée, je ne vois pas l'invité ou le docteur Muyembi ou le ministre de la Santé qui a une décision. Ils font leur travail. Ils ont acquis des droits, ce qu'ils ont remarqué sur le plan scientifique ou bien technique. C'est à celui-là de prendre la décision pour dire on va enlever le couvre-feu. Même si on n'enlève pas le couvre-feu, moi je vous dis, je crois que c'est à Lubumbashi, il y a des églises qui veillent. Il y a les gens qui marchent même au-delà de heures fixées.
Boumedien, donc vous souhaitez que le couvre-feu soit maintenu?
Non, je ne souhaite pas. Il appartient à celui qui avait pris cette décision d'en prendre une décision contraire. Si toutes les statistiques qu'on lui a donné prouve qu'il peut alléger ou enlever ça. C'est ça la contribution aujourd'hui.
Bien, merci. Professeur Kayembe.
Ben, je pense que notre ami de Lubumbashi va dans le sens de ce que nous disons. La décision est située à un niveau, mais le travail étant transversal, multidisciplinaire, impliquant plusieurs acteurs, des scientifiques, des conseillers de tous bords, etc., c'est ensemble, mais la décision est à prendre au plus haut sommet de l'État. Je vous ai parlé du comité multisectoriel que chapeaute le président de la République, qui, lui, est appuyé, accompagné absolument par la task force présidentielle pour la gestion. C'est une décision à prendre en toute responsabilité, comme d'ailleurs celle qu'il a dû prendre de créer dès le départ ce comité multisectoriel et le secrétariat technique comme étant des organes de gestion de cette pandémie Covid.
Bien. Alors, parlons du test au niveau des frontières. Il faut débourser $30 pour faire les tests. D'autres les font dans certains hôpitaux au-delà des $30, 70, 90. Et on a appris aussi qu'il y a aussi des tests rapides à $5. Alors, avec l'allègement, docteur, qu'est-ce qui peut être envisagé?
Ben, l'allègement, si ça devait se poursuivre, l'idéal, ce serait ne plus soumettre les gens à des tests avant voyage, etc. Moyennant éventuellement la vaccination, je me répète. La vaccination est, même si l'on a pu le dire en scientifique, je dois reconnaître que la vaccination jusqu'à ce jour, si elle n'empêche pas l'infection ni la contagion, la contamination des autres, tout au moins la personne qui fait la maladie Covid, il faut tenir compte de comorbidité, fait une forme légère, en général, ne nécessitant ni hospitalisation, encore moins une intervention par des moyens de réanimation médicale. Ce qui est déjà un bonus extraordinaire face à une pandémie pour laquelle les recherches continuent. Quant à comment la prévenir, évidemment. La meilleure prévention est celle d'éviter le contact, de se protéger. On connaît les portes d'entrée jusqu'à aujourd'hui du Covid. Le port de masque à l'intérieur est certainement une protection. Maintenant, on se demande si la transmission, et on le sait, en milieu ouvert, externe, est moindre. Mais si, en plus d'être en extérieur, on a une certaine distance entre soi, cela diminue également le risque de. On sait à peu près comment il se transmet par des gouttelettes qui sont aéroportées, etc. Donc, si on continue d'appliquer ces mesures, on le fait déjà, les mesures d'hygiène, si on continue de laver régulièrement les mains, si on évite, et surtout si la population est sensibilisée et informée sur les symptômes de cette maladie, qui sont aujourd'hui des plus à mieux connus, et qu'on ne stigmatise pas la pathologie, et qu'on se réfère aux professionnels de santé pour un testing possible de ceux qui sont symptomatiques et ceux qui le sont s'isoler, il y a moyen de contrôler autrement que par de contraintes de masse cette maladie. Donc je pense qu'il arrivera certainement un moment, si l'évolution continue d'être aussi favorable, où les tests qui coûtent déjà ce qu'ils coûtent aux gens ne seront même plus utilisés. Maintenant, dans les tests rapides, il faut savoir lesquels. On a des tests rapides qui ne sont pas forcément des tests moléculaires. Et certains ont une sensibilité qui est très faible, il faut le dire. Donc ce ne sont pas les tests rapides qui vont remplacer éventuellement les tests PCR si l'évolution continue d'être favorable. Ce sont des faits dont il faut tenir absolument compte.
Bien, il y a aussi cette mesure par rapport aux manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions, funérailles, anniversaires. Bon, ça devait, les gens devaient ne pas excéder plus de 50 personnes et puis observer la distanciation sociale. Est-ce que cela pourrait être maintenu ou bien ça, on peut aussi lever cela tant que les gens vont mettre les masques?
Ben, vous savez, lorsqu'on est déjà en intérieur et que l'on met son masque, et lorsque l'épidémiologie renseigne que le nombre de cas, donc la probabilité d'avoir des personnes infectées diminue, je pense que c'est en mettant son masque en intérieur, ça va. À l'extérieur, si l'on observe les mesures de distanciation, je pense aussi qu'il n'y a pas non plus de contraintes qui risquent d'évoluer jusqu'à la dépression nerveuse ou à développer d'autres pathologies psychiatriques de tout genre. Nous devons apprendre à vivre avec cette pathologie sans vivre dans une fosse excessive en développant, au risque de développer d'autres éléments comportementaux qui peuvent avoir un retentissement psychique tout à fait désagréable.
À quand l'allègement des mesures contre la Covid-19? On en parle avec Dr Jean-Marie Kayembe, membre de l'équipe de Riposte contre Covid. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre
interview. Habitants de toutes les provinces,
Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, ben ces pays n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bien, nous parlons de l'allègement probable des mesures contre Covid-19. Ngala Mouloumé nous appelle de Lubumbashi et Kachai de Kanyuka. Ngala Mouloumé, bonjour. Ngala Mouloumé, bonjour. Il n'est plus là. Kachai de Kanyuka, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à monsieur le professeur Jean-Marie Kayembe.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Sans avoir l'intention de revenir sur la question du test, comme l'a si bien déjà souligné le professeur, mais il peut nous donner quelques précisions par rapport aux frais générés par ces tests-là. Entre le ministère de la Santé, la task force à la
présidentielle
de la République et le comité multisectoriel de la lutte contre le coronavirus. Entre ces trois structures-là, laquelle a bien géré ou soit peut nous donner les statistiques de tous les frais du test COVID pour la République? Alors, revenons maintenant à la question essentielle, monsieur Jody. Vous savez, avant de parler même de l'allègement de ces mesures, à quand sera l'allègement, mais vous savez que dans ce pays, même lorsque les mesures ont été renforcées, ces mesures-là avaient été aussi boycottées d'abord par les politiciens qui organisaient des marches, des meetings. Hein? Alors, eux ne tenaient pas compte de tout cela. Ce qui les préoccupait, c'était quoi? Les actions politiques. Ils regroupaient la masse, la foule, et ils oubliaient qu'il peut y avoir des contaminations. Ici, à Kanyoka, monsieur Jody, la chef de la division provinciale de la santé est en train de sensibiliser la population à se faire vacciner, au motif qu'il y a eu actuellement beaucoup de cas de coronavirus au Kasaï central, plus précisément à Kananga, et le Kanyoka n'est pas épargné. Alors maintenant, je ne sais pas si le comité multisectoriel envisagerait l'allègement des mesures. Est-ce que peut-être ce comité est en esprit avec ce qui se passe dans les provinces? Quoi qu'il en soit, on avait aussi mis en place une mesure par rapport aux veillées mortuaires. Mais moi, j'avais émis le vœu de dire que c'est surtout pour ceux-là qui vont déposer les cadavres à la morgue. Mais ce qui se passe, par exemple, à Kanyoka, nous n'avons pas la culture de la morgue. C'est pourquoi quand les gens mouraient ici à Kanyoka et continuent à mourir, on ne les amenait pas là-bas. Mais vous voyez...
On passe directement à l'enterrement.
D'abord, l'enterrement, c'est encore loin. On touche les cadavres, monsieur Jody. On touche, on pleure, on ne veut pas que les nôtres puissent mourir. On pleure, on les touche. Et après, on les transporte jusqu'au cimetière. Avec tout ce qui se passe au cimetière et notre comportement des villageois. Alors, vous voyez que les mesures-là, même si on parle de l'allègement, ce qui veut dire que c'est pour ceux qui étaient dans le centre urbain où les mesures ont été renforcées. Mais
d'accord.
Au village, comme le village Kanyoka, les mesures ne peuvent pas être allégées parce qu'elles avaient été allégées par les populations villageoises elles-mêmes. Maintenant, ma question tonitruante, monsieur Jody, que je voulais demander à monsieur le professeur.
La question tonitruante, c'est laquelle?
La question tonitruante, oui.
C'est laquelle?
Monsieur le professeur, par rapport à tout ce que nous avons connu dans ce pays concernant Covid-19, par rapport à toutes les mesures édictées par le président de la République, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que le bilan est positif?
Merci, si Kachai de Kanyuka. Merci beaucoup. Kalabia, vous êtes à Dungu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama, c'est Justin Kalabia.
Justin Kalabia, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci pour la thématique, monsieur Jody. Je vois la courbe est descendante. de coronavirus, peu importe que la mesure barrière est aussi peu légère. Mais je suis vraiment désolé de notre pays, la République démocratique du Congo, du fait que quand je venais, parce que moi je suis à un petit déplacement, je reste souvent dans les territoires d'Arou, maintenant quand je venais, j'ai trouvé pas mal de Chinois qui viennent de Haut-Ouélé pour extraire de l'or. Et maintenant, je me demande, nous sommes tous conscients que le coronavirus est à la hausse à Chine. Et jusqu'à présent, monsieur, je dis, et ces gens-là passent souvent par la frontière. Est-ce qu'il y a vraiment un contrôle qui témoigne que ces gens-là n'ont pas de coronavirus? Et ça, c'est la première question. Et aussi, la deuxième question, monsieur, je dis, c'est notre pays, je ne sais pas si comment nous allons mettre fin à cette pandémie à coronavirus, même s'il y a, encore une baisse, parce que nous n'avons pas des autorités qui parviennent à sensibiliser la population pour les vaccins de coronavirus. Et je ne sais pas quel mécanisme que nos autorités vont mettre en jeu pour mettre fin à cette pandémie. Je dis et je me remercie, monsieur. Je dis
bien.
Et bonne journée.
Merci, professeur Kayembe.
Oui, j'ai une question tonitruante. Vous voyez comment vous m'exposez à des choses. Mais je peux répondre à notre ami de Kanyoka que lorsqu'on a la statistique de taux de mortalité, encore que nous devons reconnaître le sous-reportage par moment, est de 1,5% à l'heure actuelle, principalement dans les grandes villes, etc. Je voudrais lui dire également que la protection, et ça c'est aux deux intervenants, les mesures de sensibilisation ne doivent pas ne concerner que le seul gouvernant ou les décideurs. C'est une question de responsabilité individuelle, de responsabilité familiale et de responsabilité dans la communauté. Tous les leaders d'opinion sont mis à contribution pour vulgariser ces mesures, celles qui peuvent être applicables facilement au sein de la communauté. Je me réjouis de voir qu'il y a un responsable de santé à Kanyoka qui est en train absolument de sensibiliser les gens pour la vaccination. On a d'ailleurs opté pour la vaccination de masse, qui dans notre pays n'est pas obligatoire, mais est fortement, et ça c'est vrai, recommandé. Les bénéfices du vaccin sont aujourd'hui indubitables, même devant les plus grands vaccino-sceptiques. Notre ami de Harou parle du contrôle de frontières. Oui, ça a été une des mesures fortes de la riposte dans notre pays. On a instauré notamment le testing de toute personne revenant de l'étranger. On s'est bien aperçu, on a appris beaucoup du coronavirus, qui a été une maladie d'importation au départ. Et chaque fois qu'il y a une remontée de cas en Europe ou à l'étranger, on assiste dans les deux, trois semaines ou un mois qui suit, on assiste à une remontée chez nous aussi, avec comme point de central d'ancrage essentiellement le Covid voyageur. C'est pour ça que ces mesures ont été importantes. Mais comme nous disions il y a peu, le fait d'avoir sa vaccination dans certains pays aujourd'hui, il n'exige plus justement ce test rapide, ce test de contrôle à l'arrivée à l'aéroport, mais n'empêche que l'on ait des mesures, notamment le lavage, le contrôle de température à tous les points d'entrée, etc. Toute personne. Donc il faut se dire qu'il n'y a pas qu'une seule mesure, il y a une conjonction de plusieurs mesures. En prenant déjà celle simple, le contrôle de la température, l'utilisation, le lavage des mains, l'utilisation des gels et bien sûr l'utilisation des masques. Je pense qu'il faut redéfinir, repenser toutes ces stratégies, mais en groupe. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas l'affaire d'une seule caste, ni uniquement de professionnels de santé, c'est l'affaire de tout le monde, c'est la responsabilité, elle est avant tout collective.
Bien. Il y a eu également une autre préoccupation par rapport aux veillées mortuaires.
C'était exact. C'est dur de veiller à mon humble avis. Vous savez, c'est généralement en interne que ça se passe. Et quand on crie, on est en désarroi, on est un petit peu peiné pour avoir perdu un être cher. Je pense que c'est une mesure qui, à mon humble avis, a quelque part, là où elle a été appliquée, porté ses fruits. C'est tout simplement les lieux de grandes agglomérations où l'on est sans masque, le risque est bel et bien là. Mais tout cela dépend également, comme nous l'avons dit, de données épidémiologiques dans une population donnée. Si l'on assiste à un taux très bas, le risque est moindre de trouver des personnes susceptibles de propager la maladie à d'autres. Donc, c'est global. Mais ces mesures ne sont pas à l'heure actuelle supprimées. Nous espérons que progressivement et en responsable, en surveillant bien sûr la courbe épidémiologique, c'est pour ça qu'on a des épidémiologistes au niveau du ministère de la Santé et ailleurs, c'est un petit peu toute cette décision en groupe qui doit permettre à un moment donné de prendre des mesures les moins contraignantes possibles, mais qui trouvent quand même encore leur efficacité.
Alors, professeur, on peut dire que la mesure, par exemple, de ne plus ramener le corps à la maison sera maintenue. Donc, tout s'est fait au niveau de la morgue, à l'hôpital, et puis on va directement enterrer.
Il y a déjà dans notre République de où ça se fait. J'ai appris qu'à Lubumbashi, c'était déjà le cas depuis longtemps, avant Covid, sans que cela ne nous ait mis en contradiction ou en porte-faux avec les personnes décédées. Vous demandez mon avis est qu'on devrait continuer cette mesure de cette manière, parce qu'elle évite, elle permet d'éviter le contact de plusieurs personnes. C'est la masse qui vient autour de la personne qui est décédée. On dort dans une maison qui n'est pas toujours très bien aéré ou très ouverte, le risque augmente davantage. Sans regarder les aspects financiers de la chose, mais je pense que nous pouvons gérer autrement et garder. Si la question m'était posée, je serais fait pour la gestion actuelle, la gestion mortuaire telle que nous l'avons à l'heure actuelle.
Bien, on va accueillir Madame Claudia de Coloisi et Alphonse Boudril depuis Ingbokolo. Claudia, Madame Claudia, bonjour.
Bonjour au Capi Service.
On vous écoute.
Oui, ma question est la suivante. En quoi est-ce que le couvre-feu a-t-il réellement contribué à la lutte contre le Covid? Si pendant la journée, on a laissé la population évoluer dans le désordre, pas de respect des gestes barrières, les autorités non plus n'ont pas appliqué les mesures pour faire respecter les gestes barrières, mais ce n'est que la nuit qu'on impose un couvre-feu pour permettre aux agents de l'ordre de faire des tracasseries et de se faire de l'argent. Une fois, je suis tombée sur une barrière là constituée de plusieurs sortes de bois ramassés et de boutons. Mais je me suis demandé si les autorités étaient au courant de l'existence de cette barrière. C'était vraiment une plaisanterie.
C'était à quelle heure? À 22h, 23h?
Oui, je rentrais d'une fête de mariage à 22h. Et la barrière était vraiment bidon. Imaginez-vous des sortes de bois ramassés, des bâtons, tout ça. Et je me suis demandé si les autorités étaient vraiment au courant de l'existence de cette barrière ou si ce sont seulement les agents de l'ordre qui se sont imposés pour se faire de l'argent.
Et vous avez dû payer pour passer?
Oui, on a payé. On ne peut pas payer si on ne paye pas. Des fois, on peut tomber même sur trois barrières comme ça. Mmh. Et je me pose la question, en quoi est-ce que le...
Et à chaque barrière, vous laissez un peu de quelques billets?
Oui. Vous ne payez pas, vous ne passez pas.
D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alphonse Boudril, depuis Ingbokolo. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent depuis Ingbokolo. Bonjour aussi à notre invité. Et ma première question a été déjà prise par la dame qui vient de vous appeler maintenant ici. Et la seconde, pour moi, bon, la première question maintenant et la dernière pour moi, c'est que jeudi, quand nous parlons de respect des mesures barrières, nous parlons de la vaccination, nous parlons des mesures d'hygiène en général. Si nous les respectons réellement, nous les pratiquons dans notre vie quotidienne, nous allons éviter beaucoup de maladies. Alors, aujourd'hui, vous parlez de l'allègement de mesures anti-Covid. Je vous dirai, je dis, chez nous, cette histoire dont fait alliger ici, nous l'avons jeté dans les oubliettes, on ne connaît pas. Pour nous, Covid est déjà fini. Sur terrain, vous n'allez plus voir quelqu'un qui porte les masques. Donc, vraiment, cette histoire de Covid, chez nous, c'est déjà oublié. Parce que toutes les activités se font normalement. Donc, les rassemblements, tout ce qu'on venait de citer, par exemple, les fêtes familiales, les mariages, les liens de deuil, dans les églises, n'en parlons même pas. Donc, toute la vie est normale.
Normal, donc, c'est oublié déjà.
En tout cas, c'est dans les oubliettes, je dis. Donc, pour moi, l'unique question, comme je l'ai dit tantôt là, c'est que maintenant, et comment, quelles sont les stratégies que notre invité peut nous donner? Donc, dans le sens de maîtriser, d'adopter les mesures d'hygiène. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre vie de chaque jour? Quelle stratégie? Parce que chez nous, on est surpris lorsqu'il y a une activité malheureuse qui arrive, tout le monde court vers le savon, vers l'eau, on fait semblant d'être en forme ou propre, d'appliquer les mesures de l'hygiène. Quelles sont les stratégies? Parce que
d'accord. Merci, Alphonse.
Ça peut éviter beaucoup de maladies.
Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Kanimbe.
Oui.
Oui, la première, la dame, elle parle du couvre-feu, pourquoi la journée on a laissé les gens, etc. Il faut savoir que pour toute maladie infectieuse, parmi les paramètres fondamentaux, basiques, il y a le fait de la virulence du microbe que vous recevez, de la concentration, la quantité de particules, parlons ici du virus, mais aussi de la durée d'exposition. Le couvre-feu, à mon humble avis, sa façon d'agir, c'est celle d'éviter la durée, de réduire, d'agir sur la durée de l'exposition au risque d'être en contact éventuellement avec une personne infectée sans le savoir. N'oublions pas que cette maladie, on sait que plus de 80% de ceux qui sont infectés ont peu ou pas des symptômes, mais ils peuvent transmettre la maladie. Donc quand le temps sur les 24 heures est un petit peu écourté, quoi qu'il en soit, il y a toujours un gain. C'est cela le bénéfice notamment du confinement globalement aussi. Il y a des pays qui ont dû pratiquer, la Chine citée par un auditeur tout à l'heure, réalise même de manière drastique le confinement. Le confinement, ce sont des mesures géographiques, sociologiques, qui permettent de limiter un temps soit peu, de minimiser leur contact. C'est comme cela que je peux répondre. Je suis un petit peu mal à l'aise de devoir dire qu'il y a des barrières en bois, etc., et payer. Ces questions sont au-delà de mes compétences, étant membre tout simplement du secrétariat technique. Le deuxième intervenant trouve déjà lui-même une réponse à sa préoccupation. Quand il dit, nous appliquons, il faut renforcer les mesures d'hygiène qui peuvent nous permettre de nous préserver de beaucoup de maladies. Il a totalement vrai. Il est bon de sensibiliser. La stratégie que nous pouvons recommander est celle de la sensibilisation. Les enfants à l'école, le foyer, les leaders d'opinion dans les églises, etc. Il ne faut pas qu'il y ait une coercition de l'État pour que vous passiez dans une église un point de lavage de mains et du savon avant d'entrer dans votre église. Il ne faut pas y aller et permettre absolument aux gens de n'avoir aucune distance entre eux. Quand ils sont en intérieur, qu'ils portent quand même leur masque. On n'a pas forcément à instaurer des mesures policières. À mon avis, qu'y a-t-il de plus fort que la sensibilisation? Et les acteurs de sensibilisation, c'est toute la communauté. À partir du milieu familial, le milieu de formation, le milieu professionnel, mais aussi les lieux de récréation. Sensibilisons-nous. Et aujourd'hui, la possibilité, partout où c'est déjà accessible, de la vaccination reste quand même une approche importante qu'il faudrait renforcer dans la communauté. Voilà un petit peu ce que je peux dire à mes amis qui nous échangeons maintenant.
Bien, Katia a posé une question tout à l'heure par rapport à la gestion des frais que les gens payent pour les tests Covid, 30 dollars ici, 40, tout ça. Et comment ces fonds ont été gérés?
Écoutez, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, à chacun son job. Ça, c'est une question qu'ils devraient poser à M. Jules Alinghetti éventuellement, parce que je pense les contrôles doivent être effectués par l'État concernant l'utilisation de l'argent public qui n'appartient certainement pas aux individus qui prestent. Je n'ai aucune information quant à ce. Je ne voudrais certainement pas induire les auditeurs de Radio Okapi à qui je voue un respect habituel. Je ne voudrais surtout pas les induire en erreur pour des informations comme dans les réseaux sociaux généralement, sur lesquels je n'ai aucune compétence.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'allègement des mesures contre Covid-19. Docteur Jean-Marie Kayembe, membre de l'équipe de Riposte et notre invité. Alors donc, on attend la décision du comité multisectoriel et puis de la task force présidentielle par rapport à l'allègement. Des propositions ont été déjà faites. Alors, par rapport aux églises, quelqu'un a parlé tout à l'heure aussi des églises. Il était dit qu'il faut respecter la distanciation, au moins ne pas dépasser la capacité des 50%, excéder plus de 50% de sa capacité. Dans les veillées mortuaires, nous les voyons, docteur, au niveau des morgues, c'est rempli, c'est bondé des gens, et puis même au cimetière, on voit qu'il y a quand même des soucis par rapport au respect des mesures édictées.
Oui, il faut dire absolument que c'est une question de responsabilité individuelle et de responsabilité collective, en tenant compte bien sûr de l'information que nous donne la courbe, les statistiques, l'épidémiologie dans un coin donné. Continuons d'appliquer les mesures barrières, davantage d'ailleurs quand on est en milieu intérieur, quand on est en agglomération importante, quand on est dans une foule compacte, etc. Ces mesures nous protègent. Si demain, les informations sont beaucoup plus agréables, un peu comme la période que nous avons aujourd'hui, la crainte d'une cinquième vague, si elle n'est pas là, je pense que de manière tout à fait responsable et surveillée, on pourra regarder ensemble, échanger de manière responsable quelle peut être notre attitude. Nous devons apprendre à vivre avec cette maladie qui, dans certains coins, devra, et c'est vrai, passer à l'état d'une pathologie endémique en cessant d'être la grande pandémie qui fraye à ce jour le monde entier. C'est une question de responsabilité de comportement au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire.
Bien. Professeur Jean-Marie Kayembe, je rappelle que vous êtes membre de l'équipe des ripostes contre Covid-19. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des mesures d'allègement, contre la propagation de Covid-19. Excellente journée, professeur, et à la prochaine.
Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de Radio Okapi. Merci.
Attachez vos ceintures. Nous signalons la présence de Lucien et Bata, Orient Oil, le grand pétrolier, Richard Kamala, Champagne à flot, full option.
Ezalaki ya mofude lele komi na ngongai hanga ye ekomanga pona lia il faut sel piment poska te si fou chéri na na oyo
malima
mando chi na na oyo lingona meza la kina ngosu kali lele komi na ngongai anga ye iko manga pona lia iko pili pili boska tensiko
C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tatima Poukou a assuré la coordination et la réalisation de cette émission. Polydor Bansunga à la mise en onde. Jeudi Daniel Keshama au micro. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir et se brancher sur la fréquence de la paix. Nous allons suivre tout à l'heure les informations. À la prochaine.